explique la magie de Malamud avec José Camoun et Raphaël Léris. Romanciers juifs américains d'après-guerre, Saul Bellow, Philip Roth et Bernard Malamud, mort en 1986, Malamud était le plus discret. On l'avait même oublié. Ses livres avaient progressivement disparu des tables et des rayonnages des librairies. Ses éditeurs le laissaient tomber. La postérité semblait se détourner irrémédiablement de lui. Les éditions Rivage ont décidé de lui, ou plutôt de nous donner une seconde chance, en republiant notamment son roman Le Commis et son recueil de nouvelles Le Tonneau Magique. À nous donc de ne pas laisser passer cette chance et de rendre à Malamud la place qui lui est due. J'ai invité pour cela José Camoun, qui a traduit magnifiquement Le Tonneau Magique, et l'une des grandes journalistes du monde des livres, Raphaël Léris. Mais puisque Malamud est oublié, une introduction biographique s'impose. Qui était-il? Quelle fut sa vie? Raphaël Léris.
Bernard Malamud est né en 1914 dans une famille d'immigrés juifs russes. Il est né à Brooklyn où il a grandi avec un père qui était épicier, comme le seront beaucoup de ses personnages, comme les lecteurs du Tonneau Magique le savent, et les futurs lecteurs le découvriront. Il a perdu sa mère adolescent, je crois, assez jeune, ce qui a été fondamental dans son existence, évidemment. Et puis il a enseigné toute sa vie la littérature à l'université. À côté de ça, donc, il a écrit. Il était notoirement perfectionniste, c'est-à-dire qu'il n'a pas tant écrit que ça pour quelqu'un qui a écrit toute sa vie. Il a écrit 7 romans achevés et 1 inachevé, ainsi que 55 nouvelles, ce qui n'est pas tant que ça. Voilà, pour cet homme qui est donc mort, comme vous le rappeliez, en 1986. Il y a un texte merveilleux de Philip Roth que José Camoun a traduit dans Parlons Travail, qui lui est consacré. Oui. Voilà, où il raconte cette figure d'ami qu'il a rencontré à l'université de Cornell, où lui était venu passer un semestre et où enseignait Malamud à l'époque, et qui donne un portrait très émouvant de ce personnage qui témoigne d'une véritable malice dans ses textes, malice dont sa présence au quotidien ne faisait pas forcément état. C'est ce que raconte Roth dans Parlons de travail, c'est qu'il a dû lui raconter 2 blagues dans toute leur vie, il les a listées. Alors il se dit 2 blagues, finalement, c'est peut-être pas mal.
Oui, et c'est d'autant plus étrange que certaines de ses nouvelles sont très drôles.
Oui,
donc l'humour est présent chez Malamud. Le perfectionnisme aussi, vous l'avez dit, dans Les Locataires, il y a une citation de Coleridge qui lui va très bien. « Aucune chose ne peut plaire de façon permanente si elle ne contient pas en elle-même la raison qui fait qu'elle est ainsi et non autrement. » C'est un peu son art d'écrire qui est ainsi défini par Coleridge. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur sa biographie, José Camoun?
Non, sur sa biographie, non. Simplement, probablement, quelque chose qui était remarqué par Philip Roth, qui était fort différent lui-même. On pourrait dire son insignifiance physique, son extrême discrétion. C'était un homme qu'on ne remarquait pas. Et je pense que ça se retrouve aussi. Il y a des personnages comme ça qui frappent par une certaine fragilité dans ses nouvelles. Et dans son roman, d'ailleurs.
D'ailleurs, Philip Roth dit que lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois, il a eu l'impression de l'avoir toujours connu. On l'aurait pris pour un agent d'assurance, pour un collègue de mon père à la succursale locale de la Metropolitan Life. Il a vu, quand il est rentré chez les Baker, là où ils avaient rendez-vous, j'ai vu le courtier consciencieux et courtois dont les anecdotes et la conversation avaient bercé mon enfance. L'agent d'assurance opiniâtre et blindé, qui ne se laisse pas intimider par les grognements du chien, mais qui peut surgir en haut de la cage d'escalier à la nuit close, sans faire peur aux enfants. Ni clown, ni croque-mitaine, c'est en somme l'agent d'assurance auquel on n'échappe que par la mort. Alors, on peut ajouter quand même, et c'est Pierre-Yves Pétillon qui me le souffle dans son sa grande histoire de la littérature américaine. Oui, en effet, il est né à Brooklyn en 1914. Et ses parents, juifs émigrés de Russie, y tenaient une petite épicerie, vous l'avez dit, Raphaël Leiris, ouverte 16 heures par jour. Et c'est dans l'arrière-boutique qu'il lut son premier livre. Il avait 9 ans, il se remettait d'une pneumonie et son père lui avait jeté une encyclopédie en 20 volumes. C'est le seul livre qu'il lut jamais à la maison. Donc la boutique était ouverte 7 jours sur 7, sauf les jours des grandes fêtes juives, où la famille allait parfois au théâtre voir les pièces en yiddish qui faisaient encore les beaux jours du Lower East Side de Manhattan. Mais il y a un aspect de sa biographie qui m'a été révélé par Pierre-Yves Pétillon, qui est très intéressant quand même. En 1945, il a épousé Anne de Chiara. Mariage que Papa Malamud, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qu'il en pense, célèbre en observant les 7 jours rituels de deuil. J'en conclus qu'il a épousé une goye.
Oui.
Et c'est tout à fait singulier et intéressant parce que cette question-là du rapport des goyes et des juifs est très présente dans tous ses livres, notamment dans Le tonneau magique, dans la nouvelle aussi qui porte ce titre. Donc c'est obsessionnel. Et dans Le commis, hein, la liaison entre la fille de l'épicier et Franck Alpine, que nous allons explorer un peu tout à l'heure, fait très peur à ses parents parce que Franck Alpine est goye. Donc c'est une question qui s'est posée dans sa propre famille.
Cependant, je vois aussi un rapport, j'ignorais ce détail, et il me fascine parce que la fin du tonneau magique va nous présenter le père de la jeune promise qui ne veut surtout pas marier sa fille, surtout pas à ce jeune rabbin. Les observe de loin à leur premier rendez-vous et il dit la prière des morts. Voilà. Donc évidemment, je suis fascinée par le détail que vous venez de nous donner. Or, ce n'est pas une question, là, en l'occurrence, de juive ou chixée.
Non.
C'est juste une femme indésirable, une femme qu'on ne doit pas épouser.
Une femme qu'il ne doit pas épouser, on ne sait pas très bien pourquoi. Elle a vécu, voilà. Elle a vécu et le père en est très malheureux. Mais dites-en un peu plus alors sur cette nouvelle que vous avez traduite, Le tonneau magique. De quoi s'agit-il, José Camoun ?
Eh bien, ça commence comme un conte. D'ailleurs, on les appelle des nouvelles, mais beaucoup voudraient sans doute les appeler des contes. Hein, puisqu'au fond, ça nous dit, il n'y a pas si longtemps, vivait à New York, au nord de la ville, dans une petite chambre minimale et néanmoins bourrée de livres, nous y reviendrons souvent, Léo Finkel, qui étudiait la yeshiva pour devenir rabbin. Au bout de 6 ans d'études, il devait être ordonné au mois de juin, mais il n'avait pas pris le temps de prendre femme, et on lui explique que ce serait quand même souhaitable de prendre femme. Des femmes, nous comprenons assez facilement qu'il ne connaît pas grand-chose, voire rien, et donc il se décide à aller voir un marieur. Donc au fond, c'est une sorte de conte. Il était une fois un jeune rabbin qui n'avait pas pris femme et qui s'adressa au marieur. Et le tonneau magique, il est magique entre autres raisons, parce que dans ce tonneau, le rabbin entrepose les dossiers des jeunes femmes à marier. Voilà.
Voilà.
Et leurs photos.
Et donc, il lui fait un certain nombre de propositions, c'est cela ? Et aucune ne convient à celui qui n'est pas encore rabbin, qui suit des études dans la yeshiva.
Il s'efforce d'ailleurs de le souligner assez souvent, mais le marieur, quand son attention faiblit un peu, recommence à l'appeler rabbin. Donc ce marieur, croyant bien faire, lui propose des jeunes filles bien sous tout rapport, mais elles ne lui conviennent jamais. Celle-ci est trop jeune et boite. Celle-ci a 32 ans. Alors évidemment, on voit bien que là, ce n'est plus envisageable.
Telle autre a un père qui est gastro-entérologue.
C'est celle qui boite.
Et enfin, voilà, ça éteint en lui tout désir possible.
Et donc, ça ne fonctionne pas. Il les trouve défraîchis, non pointant, pas seulement physiquement, mais il les trouve défraîchis, c'est-à-dire déçus par la vie. Et donc, il se résigne temporairement, il se dit qu'il va faire autrement. Et néanmoins, il a un rendez-vous assez passionnant avec une d'entre elles qui s'appelle Lily et qui lui demande comment il s'était pris de Dieu. Et la question le prend de court, car s'éprendre de Dieu apparemment ne lui était pas venu à l'esprit. Et il lui dit qu'il s'est tourné vers la Bible et les fonctions de rabbin, le sacerdoce en quelque sorte, précisément pas parce qu'il aimait Dieu, mais parce qu'il ne l'aimait pas.
Oui.
Et donc elle va le confronter, elle lui demande amour, il lui répond loi. Mais elle n'a pas semé ces graines-là pour rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va se faire un cheminement dans son cœur, disons-le, et il va se mettre en tête de se marier par amour. Alors, se marier par amour et par marieur, ça paraît un peu une gageure, sauf que comme c'est un tonneau magique.
Oui, parce que d'abord, il lui répond « Je me suis toujours intéressé à la loi », et ensuite, poussé dans cet tranchement, « Je crois que je suis venu à Dieu, non pas parce que je l'aimais, mais parce que je ne l'aimais pas ». Et ça, c'est toujours le côté très mystérieux qu'il y a chez Malamud, hein. C'est que ce sont des contes, ce sont des paraboles, ce sont des fables, limpides en apparence, mais on se demande si le sens nous échappe, comment les interpréter. Et justement, je me tourne vers vous, Raphaël Léris, quelle est votre lecture de cette nouvelle, Le tonneau magique ?
Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est cette phrase « je me suis intéressé à la loi », toujours intéressé à la loi, qui est un des facteurs permanents des nouvelles de Malamud, qui est le point commun des personnages. C'est que, d'ailleurs, même s'ils essayent de s'en défaire, la loi est la chape absolue qui pèse sur eux et qui confine un peu leurs existences, mais... C'est aussi leur manière à eux d'être juifs, enfin, ce qui est une manière assez, oui, assez répandue, la question de la loi étant importante. Mais disons que c'est cette loi qui rythme l'existence, voilà, y compris dans l'amour, ça reste la question fondamentale. Et dans le commis, c'est extrêmement intéressant la manière dont il travaille sur la question de la loi avec ce personnage. Ça commence par un hold-up ou
Ah oui, alors donc c'est une petite épicerie, oui, de Brooklyn. Et là, l'aspect autobiographique a été souligné par nombre d'auteurs. Et même, je crois, sa fille qui a écrit un livre que je n'ai pas pu lire. Je crois que ça s'intitule My Father is a Book. Mm. Un nom comme ça. Et elle dit que vraiment, il a tiré le commis de sa propre expérience. Effectivement, donc, ça commence par... Enfin,
d'ailleurs, vous parliez des 16 heures par jour.
Comment ?
Les 16 heures par jour dont parle, oui, Pierre-Yves Pétillon dans l'histoire de littérature, les 16 heures par jour sont mentionnées dans, oui, dans le commis. C'est une des premières choses qu'on sait, oui, sur la vie de ce pauvre Bobert qui oui, ouvre à 6 heures du matin, sous la neige, à pousser des caisses de lait, et qui est donc là victime d'un hold-up, le pauvre. Et puis quelques semaines plus tard, alors que sa vie va de mal en pis, surgit à un homme qui propose de l'aider, qui n'est pas juif, et là on revient à la question de
Franck Alpine,
qui est goy, et dont on découvrira qu'il faisait partie des hold-up-niques. Et donc même lui, au fur et à mesure du livre, est rattrapé par la loi, par la mauvaise conscience, mais aussi par la loi, par le besoin d'expier ce qu'il a fait.
Oui, par le besoin d'expier, en effet, et c'est un personnage tout à fait singulier que ce Franck Alpine, je dois dire. Et... il est le véritable héros du livre, puisque le livre s'intitule Le commis. On apprend, on est mis au courant, on voit le hold-up se dérouler, mais on ne sait pas qui sont les auteurs. Et c'est dans le cours du livre qu'on apprend que Franck Alpine est l'un des deux bandits, qui n'ont à peu près rien volé d'ailleurs. Et en effet, il est poursuivi par un besoin d'expiation. Et il y a beaucoup d'aventures et de mésaventures dans ce livre. Mais enfin, finalement, il réussit, bien que Bobert ait découvert le poteau rose. Quand celui-ci est malade, il réussit à s'occuper de l'épicerie. Et à la fin du livre, si je me souviens bien, il devient juif. Il se fait circoncire, il devient juif. Et donc, on peut penser qu'il y aura un happy end. Alors, ce livre est vraiment terrible, parce que le pauvre Bobert meurt après avoir voulu déblayer de la neige pour les clients éventuels, pour qu'ils ne se cassent pas la figure, alors qu'il relevait d'une pneumonie. Il retombe malade et il meurt. Mais Hélène et la fille de l'épicier et le commis... Rien ne s'oppose plus là à leur mariage, alors que les choses avaient très mal tourné, qu'à un moment où elle était là pour lui avouer son amour, il a voulu la prendre de force et elle avait éprouvé pour lui un dégoût qui paraissait insurmontable. José Camoun.
Ce qui est intéressant dans ce rapport à la loi, c'est qu'il est assez étroitement lié au rapport à l'amour aussi. Et la question de la religion telle qu'elle apparaît de façon explicite, je veux dire, hein, dans le commis, lorsque Franck demande à Bobert « Vous n'êtes pas très religieux, la cache-route, les fêtes, ça n'a pas l'air de vous concerner outre mesure », il lui répond qu'il est un bon juif, car un bon juif pratique la bonté. Et on comprend aussi qu'il pratique la compassion, ce qui me paraît un mot absolument fondamental à la fois dans le comique et dans les nouvelles. Et que par cette immense compassion, confiance qu'il a dans autrui, sa capacité de pardon, eh bien, il se considère comme un bon juif. Et finalement, ce Franck Alpine va trouver peut-être le lien très fort entre sa préoccupation vis-à-vis de la loi, parce que c'est un transgresseur, mais un transgresseur qui dit que jusque dans les moments où il fait le mal, il est quelqu'un de bon, donc il a une conscience, en tout
il
cas.
Il a toujours une conscience, oui.
Il va pouvoir enfin articuler son besoin de loi et son besoin d'amour. Il est reçu par ce beau-père, en quelque sorte. Il est reçu par lui, et donc il se convertit pour la Pâque.
Oui, il est reçu par lui. En même temps, il ne peut pas s'empêcher de piquer dans la caisse.
Et non.
Donc il pique d'ailleurs peu de choses, mais c'est pour pouvoir aller boire des bières, etc. Il s'en veut, il se dit qu'il va rembourser. Il ne le fait pas, mais il est très intéressant. Ce Franck Alpine, qui est une sorte, c'est un orphelin, débrouillard, un aventurier, etc. Mais on apprend dès le début du livre qu'il a une grande admiration pour Saint François d'Assise. Alors, on lui demande, je crois que c'est Bobert qui lui demande, est-ce que c'est parce qu'il prêche aux oiseaux qu'il l'admire? Pour ça et pour bien d'autres choses, il s'est dépouillé de tout ce qu'il possédait, même de ses vêtements, et il a tout donné. Il disait que la pauvreté était une reine et qu'il l'adorait comme la plus belle des femmes. Donc il est presque prédisposé à ce destin, et à travers la compassion, il y a quelque chose qui unit pour Malamud l'idée qu'il se fait du judaïsme et un certain christianisme quand même.
Oui, c'est assez curieux à découvrir, parce qu'au fond, on se dit que ce juif Bobert, en l'occurrence, mais on va en trouver d'autres aussi dans les nouvelles du tonneau magique, pratique l'amour du prochain, et aussi le thème de la rédemption est quelque chose d'extrêmement fort.
Oui, le thème de la rédemption, et puis alors, il y a une phrase que je voudrais vous soumettre dans la préface du commis, dans la préface de l'écrivain Adam Thirouel. Je n'ai jamais rien lu de lui, mais voilà, peut-être vous, et peut-être vous pouvez m'éclairer un peu sur son œuvre. En tout cas, il dit ceci que je trouve extrêmement profond. Dans les romans traditionnels, la moralité est pervertue par le désir. Chez Malamud, le désir est toujours anéanti par une plus grande tentation, celle de la loi. Donc, la loi n'est pas pensée sous le registre de la répression, de l'interdiction, mais de la tentation. Quel commentaire vous feriez à cette phrase, Raphaël Léris?
J'avoue que je touche les limites de ma compréhension d'Adam Thirouel, qui est par ailleurs un écrivain très intéressant, grand lecteur de Milan Kundera. C'est aussi voilà une manière de dire que ces personnages qui se soumettent d'abord, enfin qui se soumettent et qui cherchent la loi et qui la désirent, je disais qu'elle a tendance à borner leur existence, c'est-à-dire aussi à la restreindre. Et donc même quand c'est contre leur intérêt, ils aspirent profondément à cette loi. Ça serait mon commentaire un peu.
Oui, et puis moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à un philosophe. Qui est Lévinas, parce que Lévinas ne parle que de morale, mais jamais de manière prescriptive, toujours de manière descriptive. C'est la morale, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qui nous arrive. C'est une injonction, c'est une assignation, tout d'un coup. On peut pas faire autrement, parce que l'autre, nous, le visage de l'autre, dirait Lévinas, et il y a quelque chose comme ça qui arrive à ce Franck Alpine, c'est-à-dire la loi se présente sous la forme d'une tentation, mais aussi parce que il peut pas faire autrement. Il est attiré non seulement par Hélène, mais aussi par Bobert, dont il se sent responsable, qu'il veut quand même réussir à protéger, à aider. C'est comme ça que je comprends ce mot de très étrange de tentation appliqué à la loi, José Camoun.
Oui, je pense qu'il y a aussi, et cette tentation de la loi se manifeste dans le commis et dans d'autres nouvelles par une longue période qu'on pourrait appeler d'initiation, pourquoi pas. Une longue période que j'ai envie d'appeler une période de patience. faire patience. Parce qu'à la fois, vous avez raison, la loi se manifeste, elle surgit, on pourrait dire, dans le visage de l'autre, comme vous, oui. Vous venez de le dire. Mais pour accéder à la loi, il faut de longues semaines de patience. Or, ces personnages sont des personnages mus par le désir. Ils ne sont pas foncièrement patients. Il y a là toute une éducation qu'ils se font à eux-mêmes.
Une éducation, alors justement, à propos d'éducation, il faut parler de la place des livres dans ses romans et dans ses nouvelles.
Absolument.
Lui, c'était un grand lecteur, on l'a,
alors,
dit.
L'encyclopédie, quand il avait 9 ans, je pense que son père avait fait un investissement dont il n'imaginait même pas les conséquences.
Voilà.
Et il y a cette nouvelle extraordinaire qui s'appelle « Lecture d'été », où un jeune homme qui a quitté le lycée sans diplôme...
C'est dans l'autonomagique. Hein.
Voilà, dans l'autonomagique, et qui vit avec sa sœur et qui, au fond, traîne la savate, pour le dire clairement... fait croire à sa sœur et par conséquent à tout le quartier, car les nouvelles vont vite, qu'il a décidé, puisqu'il ne travaille pas cet été, de lire une centaine de livres. Alors, aussitôt, il jouit de la considération de son entourage. Parce que c'est vraiment quelque chose, le goût de l'étude et le goût des livres qui est permanent et qui est incontesté à travers toutes ces nouvelles. Et on va voir qu'un pauvre vieil Italien, qui s'appelle Monsieur Catanzara, se doute, en cours de route, qu'il ne lit rien du tout et qu'il reste dans sa chambre à écouter la radio et ne rien faire. Et c'est en lui faisant confiance et en faisant semblant de le croire et en répandant sur le voisinage le bruit que ce garçon est admirable, que le garçon va devenir admirable.
Voilà, il veut tout d'un coup ne pas démériter de sa propre
Absolument.
Image. Absolument. Oui, c'est vrai. Mais la question des livres est présente non, aussi dans le commis. Là, je voudrais vos commentaires aussi, c'est-à-dire que première rencontre, enfin l'un des premiers dialogues entre Hélène, la fille, et le commis, et il lui demanda ce qu'elle était en train de lire. L'idiot, dit-elle, vous connaissez ? Non, qu'est-ce que c'est ? Un roman, et Dostoïevski. Moi, je préfère les choses vraies. Et elle a cette phrase magnifique, un roman, c'est la vérité. Mais cette phrase, il la retourne contre elle. Parce que donc, il a entraîné par son désir, il est allé un peu trop loin, elle est complètement dégoûtée, il essaye quand même de plaider sa propre cause, elle reste inébranlable, et il lui dit ceci, qui est extraordinaire, « Es-tu sûr d'avoir bien compris les livres que tu m'as fait lire ?» Voilà. Et tout d'un coup, c'est la rigidité de la loi morale, de la raison pratique, mais la littérature, c'est la sagesse pratique, c'est les cas individuels, et il lui retourne le compliment. Si les romans, c'est la vérité, alors sois fidèle toi-même à l'esprit du roman. Et on peut penser d'ailleurs que sa rédemption aura un effet positif, c'est ce que le roman laisse entendre, même s'il ne le raconte pas. Donc, ces romans font place à la littérature, et vous êtes sensible aussi à cela, Raphaël Léris ?
Je suis évidemment sensible et à la manière dont Dostoïevski plane sur le commis constamment. Il n'est pas juste la lecture qu'Hélène donne à Franck Alpine. Vraiment, c'est la référence constante du texte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comment les textes de Malamud se répondent. Il y a plusieurs des nouvelles du tonneau magique qui font écho au commis et dont on pense qu'ils sont aussi là où le commis naît, d'ailleurs la plupart sont antérieurs au commis. Lecture d'été, pour cette raison, je me dis peut-être que ce garçon qui veut absolument lire, avoir abattu sa liste de lecture avant la fin de l'été, a probablement à voir avec le personnage de Franck Alpine. Il y a le premier texte du tonneau magique qui est les 7 premières années.
Ah oui.
Alors, qui est merveilleux, qui est un texte extraordinaire et déchirant, mais dont on sent qu'il est quasiment un premier jet du commis.
Oui,
il est en germe. Il faut qu'on s'y arrête, parce que c'est une nouvelle absolument bouleversante. José Camoun et puis Raphaël Léris.
Alors oui, je pense que à propos de ce que vous disiez sur le rapport entre l'amour, les livres, la vérité, etc., le père accuse l'ouvrier, donc Sobel, son ouvrier, d'avoir séduit sa fille par les livres, car il lui en prête généreusement, et non seulement il lui en prête, mais ils sont annotés, il y a toutes sortes de commentaires.
Oui, il a son employé fait, il est cordonnier, et il tape trop fort d'ailleurs sur l'enclume.
Ah, c'est très intéressant.
Il cogne comme un forcené, ce qui ne cesse d'interrompre interrompre la rêverie de Fèvre.
Voilà. Donc, les livres sont fondamentaux dans cette histoire parce que le cordonnier, le père de la jeune fille à marier, ne comprend pas pourquoi Sobel, son ouvrier, lit de cette manière qui lui semble presque mauvaise pour sa santé, on pourrait dire. Et il lui dit, mais tu es allé à l'école? Et l'autre lui répond non. Et alors, pourquoi lis-tu? Il lit pour lire, pour savoir. Mais savoir quoi? Et savoir pourquoi? Et là, bien sûr, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est toute cette quête. Et on voit toujours ce même décor qu'on voit aussi dans la chambre du jeune rabbin. Véritablement une cellule de moine. Il n'y a rien. Il y a un lit, une lampe, une table et des livres absolument partout. Et on voit bien effectivement que le lien qui s'est tissé entre la jeune fille à marier et ce pauvre ouvrier, ce lien c'est celui-là. Et il est presque muet.
Il est presque muet et en même temps, Feld, le cordonnier, n'a qu'une idée, marier sa fille.
Un étudiant.
Elle a 18 ou 19 ans et elle veut la marier à un étudiant pour qu'elle échappe. Justement, à son destin,
à
qu'elle ne passe pas
lui.
Sa vie cloîtrée dans une écharpe, dans une échoppe. Les personnages de Malamud sont des personnages cloîtrés, justement, des personnages prisonniers. Et donc, il fait en sorte qu'elle rencontre ce Max, et les choses ne se passent pas comme il le souhaitait. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un matérialiste, se dit-elle.
Il n'a pas d'âme.
Ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'a pas d'âme, il ne s'intéresse qu'aux choses. Et alors, continue l'histoire, Raphaël Deris.
Je ne voudrais pas en dire trop sur cette nouvelle qui est d'une tristesse accablante et en même temps qui est un humour sous-jacent, comme si pour Malamud le sort qui s'acharne sur ces personnages avait quelque chose à voir avec une plaisanterie ourdie par Dieu. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très biblique dans l'humour de Malamud dans ce texte-là, qui est très évidemment calqué sur l'histoire de Jacob et Laban dans la Bible, parce que cette année d'esclavage, là, pour le coup, chez Jacob et Laban, mais donc ça fait 7 ans que cet ouvrier travaille chez Fell, et il ne comprend pas, Fell, pourquoi cet homme accepte ce salaire de misère, même s'il vient d'une Europe dans laquelle il a échappé à la Shoah. Et la réalité, c'est pour sa fille.
Il le lui dit, mais c'est très très beau ça, parce que quand il voit, quand il prend conscience des manigances du père pour marier sa fille, il s'en va. Et donc, le père va le chercher quand même en disant, mais pourquoi? Et là, il lui avoue tout. Hein, pourquoi tu crois que je travaille pour toi depuis si longtemps? 5 ans de ma vie payés une misère, tu crois que c'est pour que tu aies de quoi manger un toit sur la tête? Pourquoi alors? Pour Myriam. Bredouilla Sobel et elle seule. Et ce qu'il y a de bouleversant dans ce livre, c'est que le cordonnier Feld, qui avait des plans sur la comète pour sa fille, eh bien, d'une certaine manière, comprend de quoi il retourne, lui demande de revenir dans l'atelier et lui dit, tu attends qu'elle ait 19 ans, et puis, à ce moment-là, si tu veux, tu lui feras la cour. Donc, d'une certaine manière, alors que il est chauve, il a 35 ans, il n'est pas du tout le parti qu'il imaginait pour sa fille. Mais il est quand même impressionné, et plus que cela, par cet amour éperdu d'un homme, en effet, qui est un rescapé de la Shoah. Alors, il n'utilisait jamais le mot Shoah. Hein. C'est toujours les crématoires d'Hitler. Ouais. Les crématoires d'Hitler, et donc... Voilà, donc il est prêt, finalement, à lui donner sa fille.
Il est converti, en quelque sorte, voilà. À son tour. Il est converti à cet amour qui est assez facile à opposer avec le gendre idéal qu'il avait vu dans l'étudiant Max, qui n'est pas du tout un gendre idéal puisqu'il n'a pas d'âme.
Voilà, c'est pas le gendre
donc
idéal.
Donc, voilà. Il a un rapport à l'étude qui est, on va dire, purement mercantile, social. Hein, cet homme-là, Max, il étudie pour arriver dans la société, alors que l'autre étudie pour l'amour, dans tous les sens du terme, pour l'amour de l'étude et pour l'amour de cette Myriam. Amour muet, je le répète, puisque le père dit, et Myriam sait, elle connaît mon cœur. Et on a l'impression que Myriam sait, alors que peut-être il ne le lui a même pas dit.
Et en même temps, les personnages de Malamud, ce sont, dirait-on en yiddish, souvent des schlemazel. Schlemazel, ça veut dire... malchanceux. Il y a deux mots, le schlemil et le schlemazel. D'ailleurs, ces deux mots veulent un peu dire la même chose. Schlemil, c'est le maladroit, mais moi, à chaque fois que je commettais une maladresse, mon père me traitait de schlemazel. Donc, ils sont tous des schlemazel. Le rescapé aussi, ils sont malchanceux. Et ça m'a fait penser, parce que la Shoah est présente dans son livre à travers, justement, ces survivants qui hantent ces pages. Et voilà, et on le voit aussi dans d'autres nouvelles du tonneau magique, notamment celle avec, comment elle s'appelle, avec Bessie, là. L'emprunt, non, c'est ça?
Ah, l'emprunt.
Ah, c'est le pain des larmes, enfin, je veux dire, là où on voit arriver le pain des larmes.
Mmh. Oui, le pain des larmes. Oui,
enfin, je l'appelle le pain des larmes.
Oui, c'est l'emprunt.
Boulanger,
l'emprunt, oui, tout à fait. L'emprunt, voilà. À la fin, on verra les baguettes, les pains.
Et c'est Kobotsky.
Voilà,
Kobotsky. Qui est un rescapé et qui demande de l'argent au boulanger.
Pour la tombe, la pierre tombale,
voilà,
de sa femme.
Et il pense que c'est parce que sa femme est malade. La femme du boulanger, sa deuxième femme, ne veut pas lui en donner parce qu'ils sont pauvres. Et à un moment, ce Kobotsky dit, l'argent, c'est pour mettre une pierre sur sa tombe. Elle n'en a jamais eu. Dimanche prochain, ça fera 5 ans qu'elle est morte, excusez-moi. Et tous les ans, je lui promets, pour cette année, tu vas l'avoir ta pierre. Mais les années passent et je lui donne jamais. Dialogue avec les morts et tout ça. Et donc Kobotsky, c'est encore un rescapé, un schlemazel, un type. Et là, ça m'a fait penser à une phrase de Appelfeld, recueillie aussi par Philippe Roth dans Parlons Travail. Aujourd'hui encore, on s'accorde à prendre les Juifs pour des créatures habiles, retorses et pleines de finesse, qui auraient engrangé toute la sagesse du monde. Vous ne trouvez pas fascinant de voir comment il était facile de les berner? Il a suffi de subterfuges simplets, pour ne pas dire enfantins, pour les parquer dans des ghettos, les affamer des mois durant, les leurrer de faux espoirs et finir par les faire monter dans les trains de la mort. C'est cette ingénuité qui s'imposait à moi lorsque j'écrivais Badenheim. J'y trouvais la quintessence de l'humanité. Ben, c'est cette humanité, c'est aussi celle des personnages de Malamud.
Oui, je trouve très intéressante le mot d'ingénuité auquel voilà. Je n'aurais pas pensé spontanément, mais cette innocence, c'est-à-dire ne pas voir le mal, finalement, une certaine cécité vis-à-vis du mal, les caractérise absolument, oui.
Alors, je voudrais maintenant qu'on en vienne à deux autres nouvelles qui m'ont particulièrement frappé, si vous le voulez bien. L'ange Lévine et la pitié. Oh. Alors, commençons. Par l'ange Lévine. Raphaël Léris.
Alors, l'ange Lévine, je crois que c'est dans sa... Bref, je ne sais plus dans quel texte, dans quelle préface, il est dit que Job est le sous-texte de la plupart des textes de Malamud. Alors, dans l'ange Lévine, c'est jusqu'à la parodie, puisqu'il n'arrête pas d'arriver des malheurs au personnage.
Principal, oui.
Principal, je suis désolée, c'est irrésistible, mais je voudrais lire ce passage. L'année de ses 51 ans, Manichevitch le tailleur avait subi bien des revers et indignités. Hier, dans l'aisance, il avait tout perdu du jour au lendemain lorsque son commerce avait pris feu à la suite de l'explosion d'un bidon de détachant. Tout avait brûlé du sol au plafond. Manichevitch s'était assuré, mais les dommages et intérêts réclamés par deux clients blessés dans l'incendie avaient englouti ses économies. Presque coup sur coup, son fils promis un bel avenir avait été tué à la guerre et sa fille avait épousé sans tambour ni trompette une espèce de rustre avec lequel elle avait disparu corps et bien. Donc ça, ce sont les premières lignes de l'ange Lévine. Et il va finir par se présenter à Manichevitch, donc accablé par le sort, enfin on ne parle même pas d'accablement à ce stade-là, un homme noir qui se présente comme un envoyé de Dieu. Il s'appelle Monsieur Lévine. Alors il se trouve qu'il habite plutôt au nord de New York, mais il se présente comme l'ange Lévine. Et Manichevitch a le plus grand mal au début à croire que cet homme-là va réussir à le sortir de la déveine dans laquelle il s'enfonce constamment. Et c'est une nouvelle d'une drôlerie burlesque. Enfin, dans une interview à la Paris Review en 1974, Bernard Malamud disait que dans ses inspirations, il y avait Charlie Chaplin. Et qu'il y avait quelque chose dans le rythme du gag qui l'inspirait pour sa nouvelle. Et là, je trouve que dans l'ange Lévine, on le sent particulièrement.
Oui, il y a la loufoquerie.
José Camoun.
Il y a la loufoquerie totale de cette situation, puisque quand il est à toute extrémité et qu'il se tourne vers Dieu, il ne s'est pas plutôt tourné vers Dieu, qu'il y a un petit bruit dans le séjour, et que là, il sort de la chambre, qui est la seule pièce bien chauffée, et il voit ce noir, dont il croit d'abord qu'il est un travailleur social, puisqu'il a demandé une aide. Et l'autre lui représente qu'il est un ange, alors un ange, mais encore, si vous êtes un ange, est-ce qu'on n'aurait pas pu m'en envoyer un blanc? Et l'autre lui dit simplement, c'était mon tour de descendre. Voilà. Donc on est dans le merveilleux, le plus loufoque. Dans le merveilleux, oui. On n'est pas dans le fantastique, on est dans le merveilleux absolu. Totalement loufoque et cocasse, qui va nous entraîner jusqu'à Harlem.
Oui, parce qu'il va chercher après. Non
ah ben parce qu'il disparaît. D'ailleurs, il l'a traité assez froidement. Hein, il est quand même pas très convaincu.
Mais oui. Donc l'ange est vexé.
L'ange est un peu vexé. Et puis, quant à Manischewitz, un ange juif et noir. Il savait qu'il y avait des juifs noirs. Hein, il avait entendu dire, mais il n'en avait jamais vu. Et il va effectivement le poursuivre jusqu'à Harlem. Il le voit tomber dans une boutique recyclée en synagogue où quatre noirs sont en train de lire la Torah. Donc on va de surprise en surprise. Il est évident, toute l'ironie évidemment, enfin une partie en tout cas de l'ironie de cette nouvelle, c'est que cet ange, ce sauveur, est tout à fait infréquentable. Il est habillé, il dort dans son costume, il a un costume fripé, il passe son temps dans un bastringue à danser avec une créature pulpeuse. Enfin, ça peut pas être un ange.
Et pourtant c'est un ange. Ah oui, enfin, l'histoire, laissons les futurs lecteurs le découvrir, mais je vous ai fait parler de cette nouvelle parce que sur la question des rapports des Juifs et des Noirs, Malamud a aussi écrit autre chose. Et il a vraiment pris acte dans ses livres de ce grand tournant, la rupture de l'alliance historique entre la communauté juive et la communauté noire autour de la défense des droits civiques. C'est vrai dans une nouvelle recueillie dans Les Idiots d'abord, une nouvelle qui s'intitule « J'ai toujours préféré le noir » où le héros qui aime a priori les noirs se fait calcer la figure par un certain nombre d'entre eux parce qu'il sort lui-même avec une noire, il se fait traiter de sale exploiteur juif. Et c'est plus vrai encore dans Les Locataires, un roman qui était paru autrefois au Seuil, où deux écrivains occupent ensemble un immeuble en voie de démolition. Ils sont donc tous les deux seuls à leur machine à écrire. Et le noir est d'une violence et d'une hostilité farouche à l'égard des Blancs. Donc c'est une manière de dire les Blancs et nous, c'est fini. Ça annonce ce qu'on appelle aujourd'hui l'appropriation culturelle. Ne vous mêlez pas de notre histoire, vous ne pouvez rien y comprendre. Et les Juifs sont des sales exploiteurs. Donc c'est, quand j'ai lu l'Ange Lévine et que j'ai relu Les Locataires et que j'ai découvert Les Idiots d'abord, j'ai eu le cœur un peu serré, si vous voulez. Parce que quelque chose s'est passé dont Malamud a pris conscience et qu'il a traduit dans ses livres, une sorte de rupture. Bien, et maintenant, je voudrais qu'on en vienne à cette autre nouvelle, La Pitié. Là encore, on n'est pas dans le réalisme, on n'est jamais tout à fait dans le réalisme avec Malamud. Alors, La Pitié, Raphaël Léris.
On est dans une sorte de purgatoire, enfin, on finit par comprendre, où Davidoff, le recenseur, qui est donc là pour trier les arrivées, voit arriver un homme alors qui lui dit comment il est arrivé là, même si dans le fond il doit bien le savoir, c'est son travail de le savoir. Et ça va être l'histoire pitié d'une femme.
Oui, ça s'appelle Pitié en fait. Pitié.
Qui veut échapper à la bonté de ce personnage mort. Et il est d'une empathie totale. Donc lui, il est, je crois, représentant de commerce. Représentant en café, voilà. Et elle avait une épicerie qui périclitait depuis la mort de son mari, et lui veut absolument l'aider, elle le refuse absolument, et lui, il a une espèce d'empathie radicale qui l'entraîne jusqu'à la catastrophe dans laquelle elle le suivra. C'est à la fois hilarant et vraiment déchirant.
Déchirant, oui, parce qu'elle a été mariée à Axel Kalisch, réfugié polonais, encore un réfugié, ces réfugiés qui hantent vraiment les récits et les romans de Malamud. Il avait mis $3,000 de côté, il avait acheté une épicerie de rien du tout, encore l'épicerie, dans un coin mort du quartier où il n'avait pas la moindre chance. Et évidemment, il n'avait pas de chance. Et là, il y a ce dialogue très malamoudien entre le recenseur, enfin, le du purgatoire, et Rosen, il y a un truc qui s'est cassé en lui quand il est mort. Qu'est-ce qui s'est cassé? C'est cassé ce qui se casse. C'est cassé ce qui se casse. Et puis tout d'un coup, il a eu une crise cardiaque, il est mort, et sa femme veuve a essayé de survivre dans l'épicerie. Il l'a supplié, Rosen, justement, de quitter cette épicerie, de te faire autre chose. Et elle n'a rien voulu entendre. Allez n'importe où dans votre famille, lui a-t-il dit. Elle a ri comme quelqu'un qui a oublié la joie. Ma famille, Hitler me l'a volée. Et c'est vrai, tout au long de la nouvelle, elle refuse les avances absolument désintéressées de Rosen. Elle ne veut rien entendre de sa pitié, José Camoun.
On pourrait dire aussi que ces nouvelles sont un peu un essai sur le don. Demander, mendier parfois, recevoir, c'est une grande affaire. C'est-à-dire qu'au-delà de l'argent, Dieu sait que l'argent joue un rôle capital dans ce petit monde étriqué et toujours, auquel il manque toujours, si on ose dire, 19 sous pour faire un franc. Mais au-delà de l'argent, il y a la question du don. Et donc, cet homme veut lui faire, comprenons-nous, un pur don gratuit. Et nous ne savons pas exactement, et ça c'est aussi la manière de Malamud, nous ne saurons pas exactement pourquoi elle ne cesse de refuser. Est-ce qu'au début elle pense qu'il n'est peut-être pas si désintéressé qu'il le dit, ou est-ce que tout simplement il veut lui faire un don auquel elle n'a aucun contre-don possible, et donc ce don n'est pas envisageable. Elle ne peut rien lui rendre, ou elle pense qu'elle ne peut rien lui rendre, qui soit équivalent.
Peut-être parce qu'elle est trop malheureuse aussi pour même être capable de dire merci.
Tout à fait. Elle est tellement pire que griffée, blessée par la vie, séchée sur place. Elle est réduite à sa plus simple expression et ses enfants meurent de faim, ces deux petites filles, qu'elle ne peut plus rien accepter. Son cœur n'est plus capable d'accepter ce don.
Il faut une générosité pour être capable de gratitude, en quelque sorte.
Exactement, c'est-à-dire qu'il faut de la générosité pour donner, mais il en faut quand même un minimum pour recevoir. C'est aussi une des choses qu'on découvre.
Qu'on découvre là. Et alors, Rosen prend une décision qu'il a amenée devant le recenseur. C'est quelqu'un à qui on ne peut rien donner, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis allé chez mon avocat et on a rédigé un testament dans lequel tout lui revenait, mes actions, mes deux maisons, etc. Ensuite, j'ai signé, je suis rentré chez moi, j'ai allumé le gaz et j'ai mis ma tête dans le four. Qu'elle essaie un peu de dire non maintenant. Mais après, il y a une scène, tant pis si je la dévoile, les gens le liront quand même, c'est tellement beau. Hein ? C'est parce qu'il faut que vous m'aidiez.
Oui, mais je suis d'accord pour que vous spoiliez dans cet abominable argot que nous parlons, parce qu'en fait, on ne le lit pas qu'une fois, ces nouvelles. On les lit trois fois, quatre fois.
Voilà.
Il faut les relire.
Il faut les relire, oui. Comme ces paraboles, ces fables dont on veut absolument déchiffrer le sens. Donc tout d'un coup, il dit ça, et puis le recenseur Davidov se lève. Il ouvre le store. Et là, je lis, vous allez m'expliquer. Hein, toutes les deux, Raphaël Deris, José Camoun. Le crépuscule était tombé, mais une femme se tenait devant la fenêtre. Rosen bondit de son lit pour la voir. C'était Eva, qui le regardait avec des yeux hantés, implorants. Elle tendait les bras vers lui. Furieux, l'ancien voyageur de commerce lui montra le poing. « Putain, salope, traînée !» lui cria-t-il. « Va-t'en d'ici !» « Va-t'en chez toi t'occuper de tes enfants. » Davidov n'eut pas un geste pour l'empêcher de baisser le store à grand fracas. Alors, Raphaël, c'est dur, hein ?
Alors, c'est absolument terrible avec donc ces enfants qu'elle a emmenés dans la mort avec elle, tout ça pour ne pas avoir à accepter le don posthume de Rosen.
Donc elle est morte aussi, c'est ça qu'on apprend ?
C'est ce que nous comprenons.
Elle est morte aussi, mais en même temps, elle tend les bras vers lui.
Ah ben parce que... ayant reçu la mort, elle peut accepter quelque chose, je pense.
Après quelques années de purgatoire, ça va s'arranger. Hein ? Ça va s'arranger après quelques années de purgatoire. Mais il y a encore toute une patience à faire pour pouvoir véritablement accepter ce don. Et pour que lui pardonne aussi.
On a quand même le sentiment qu'il ne lui pardonnera pas, là.
Pas tout de suite.
Parce qu'en plus, il a le sentiment... qu'elle a trahi ses enfants.
Elle les a tués, puisque si elle avait accepté son argent, les enfants ne seraient pas mortes.
Voilà. Donc, elle tend les bras vers lui parce qu'elle est capable, sous un coup, de recevoir. Mais on a quand même le sentiment que même au ciel, il est trop tard. Ah. Terrible trop tard.
C'est une, peut-être la nouvelle la plus noire, avec celle qui s'appelle La facture, où le gardien achète à crédit et ne rembourse pas. Je pense que ce sont les deux nouvelles les plus noires du recueil.
Alors dites-nous quelques mots de La facture.
Oh, moi, je vais vous dire quelques mots de La facture. Pendant ce temps-là, je vais vous lire le paragraphe d'introduction. Quoique à deux pas d'un fleuve, la rue était enclavée et étroite, où s'alignaient tant bien que mal des immeubles vétustes, tout en briques. L'enfant qui lançait son ballon par-dessus sa tête voyait un pan de ciel pâle. Au coin, face à l'immeuble noirci, où Willy Schlegel travaillait comme gardien, s'en dressait un autre, en tout point semblable, à ceci près, qu'il abritait la seule boutique de la rue. Quand on descendait 5 marches de pierre, on pénétrait chez un petit traiteur épicier en sous-sol, une échoppe sombre, un vrai cagibi, que tenaient monsieur et madame Panessa. Donc je trouve que c'est très caractéristique de la technique assez cinématographique, d'ailleurs, de Malamud. On a aperçu un pan de ciel pâle en suivant, la caméra a suivi le ballon de l'enfant. Et quasiment dans la même phrase, on descend dans le sous-sol où se trouvent ces deux malheureux qui vont avoir, qui vont commettre une erreur irréparable, faire crédit. Et donc, ce gardien et sa femme, qui sont très pauvres aussi, c'est surtout lui, d'ailleurs, elle ne profiterait pas du crédit, ça va lui monter à la tête, et il va se mettre dans ce mécanisme diabolique du crédit, avec une mauvaise conscience abominable, parce qu'il se dit qu'il devrait rembourser, il se dit qu'il plus il achète à crédit et moins il pourra rembourser, et ses créanciers, sont eux-mêmes encore plus pauvres que lui et voués à une mort assez proche. Voilà.
Oui. Et en effet, c'est l'erreur de faire crédit. On peut dire aussi, dans une société, on ne peut plus faire crédit. La vie devient absolument invivable, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus que la méfiance entre les êtres, quoi. C'est pour ça, vous avez raison, qu'on peut qualifier cette nouvelle d'extrêmement noire.
Oui.
Et c'est en effet la plus noire du recueil, avec pitié.
Oui.
Alors maintenant, je voudrais en venir à l'un des auteurs que j'ai cité au début, Philippe Roth. Il était un ami de Malamud, il en parle dans Parlons Travail. Comment vous qualifieriez la différence entre Philippe Roth et Malamud? Ils étaient proches et en même temps, c'était pas le même type de littérature, pas non plus tout à fait le même type de rapport au judaïsme ou à la judéité, Raphaël Léris.
Alors j'ai un petit peu honte de parler de Philippe Roth devant José Camoun, je me sens un petit peu embarrassée avant de le faire.
Vous êtes une lectrice en tout cas, émérite.
La différence, ils avaient 20 ans d'écart, ces deux hommes, et ça fait que les personnages de Malamud sont des immigrés et les personnages de Roth sont des enfants d'immigrés. Et ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, peut-être que les nouvelles où les personnages ressemblent plus à ceux de Roth sont les trois nouvelles qui se passent en Italie, où trois personnages sont envoyés en Italie, qui eux sont des enfants d'immigrés, qui eux sont des vrais Américains, et qui paradoxalement envoyés en Italie vont se retrouver dans la même situation que leurs parents, c'est-à-dire empêchés d'agir. Le fait d'être partis les pousse à se retrouver dans cette situation-là dans laquelle ils pensaient avoir échappé. Donc la différence, sont vraiment deux œuvres très différentes. Après, je pense qu'il y a un lien entre eux, ça serait peut-être la référence à Tchekhov, semble très enfin aussi fondamental chez Malamud que chez Roth. Oui. Enfin, je parle.
Mais je ne suis pas
Tchekhov,
l'autorité suprême
qui est présent dans Le professeur de désir.
Voilà.
C'est vrai. José Camoun.
Oui, j'allais tout à fait aller dans ce sens. Et à un moment donné, dans justement Lecture d'été, hein, ce petit personnage-là, ce jeune étudiant, ce non-étudiant justement, il pensait au boulot qu'il avait décroché depuis qu'il avait quitté l'école, livreur, gérant de stock, coursier, ouvrier d'usine, aucun ne faisait son affaire. Il se disait qu'il aimerait bien un jour avoir un bon poste, habiter une maison indépendante avec Perron. Bah, c'est exactement la situation des personnages de Pastorale américaine. Donc, quand Zuckerman évoque son enfance, il est dans cette maison avec Perron, sur laquelle fantasme ce jeune étudiant. Donc, effectivement, il y a une affaire de génération. Et puis alors après, je pense qu'il y a vraiment une affaire de tempérament.
Vraiment, oui.
Parce que vous disiez tout à l'heure que les personnages donc de Malamud sont des malchanceux. Et on pourrait dire des malchanceux sériels. Hein. La malchance s'acharne sur eux. Des serial losers, si vous voulez, pour parler
serial
français.
Et
les personnages de Roth ne sont pas des malchanceux. Et si compliquée que soit leur situation... Ce sont des dominants et non pas des dominés, ce sont toujours des dominants parce que leur libido extraordinaire, leur goût de la vie, de croquer la vie, les dispense d'être un jour des dominés. Alors c'est très relatif, voilà. Donc on n'est pas du tout dans le même cas de figure, ni par ailleurs dans la même écriture.
Et puis il y a une énergie en effet folle dans les romans de Roth, mais vous avez raison, je crois, l'une et l'autre, d'insister sur la question de génération, parce que ce qu'explore Roth, c'est la dimension comique, mais du destin juif lui-même, c'est-à-dire de ceux qui vivent peut-être sous l'ombre de la catastrophe, des fours crématoires de Hitler, mais qui n'en sont plus du tout les contemporains. Parce que moi, j'ai retenu une phrase, entre autres, de l'écrivain des Ombres. Vous savez, c'est là qu'apparaît Nathan Zuckerman, et il a des ennuis avec, parce qu'il a écrit des choses qui sont désagréables à la communauté dans son premier recueil de nouvelles. Et sa mère lui dit, mais enfin, il faut que tu sois un peu plus gentil, il dit, à cause de la souffrance, et il a cette phrase, « Maman, si tu veux voir des Juifs de Newark subir des violences physiques, va au cabinet du chirurgien esthétique où les filles vont se refaire le nez. C'est là que le sang juif coule dans le comté des sexes. » Et ça, c'est possible pour Roth, c'était pas possible pour Malamud, avec tous ces personnages qui viennent hanter, justement, ces nouvelles. Donc, je crois que la question de génération joue énormément. Cette exploration du comique n'était possible que pour Roth.
C'est vrai, n'empêche qu'en vieillissant, il a quand même écrit Le complot contre l'Amérique.
Oui, c'est vrai. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette conversation. Alors, je rappelle les titres des livres de Malamud que nous avons abordés. Le tonneau magique, que vous avez traduit, José Camoun, aux éditions Rivage. Le commis, aussi publié chez Rivage. Et j'espère que Rivage va continuer à nous faire découvrir ce très grand auteur. Soyez infiniment remerciés, Raphaël Héris et José Camoun. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Auchard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Stéphane Desmonts. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.